Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain à moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Si les périodes électorales sont propices à l'émergence de nouvelles idées en matière d'emploi, d'éducation, de fiscalité ou de vivre ensemble, la politique, ses règles et ses institutions n'échappent pas à la règle. À gauche comme à droite, de nombreux candidats estiment qu'il ne serait pas un luxe de repenser le fonctionnement de notre démocratie. Ce serait même une urgence face au sentiment de défiance, qui s'installe, sans parler du taux d'abstention et des partis désertés par leurs militants. Alors, à qui la faute? À nos dirigeants ou bien aux rouages de la démocratie elle-même, un parlement peu représentatif, un président qui manque de contre-pouvoir, une classe politique qui peine à se renouveler, la 5e République serait-elle à bout de souffle? La question était abordée hier soir lors d'un colloque organisé par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Refaire la démocratie, du nom du rapport remis au président il y a un an. On y trouve des propositions audacieuses qui remettent à plat l'architecture des pouvoirs et repensent des institutions à la fois plus efficaces et plus proches des citoyens. Sauf que l'initiative est déjà la 4e depuis 1958, rapport Vedel en 93, Balladur en 97, Jospin en 2012. Diagnostic et proposition se succèdent sans qu'ils ne soient vraiment appliqués. François Hollande hier soir a parlé de limiter le cumul des mandats des parlementaires et d'accélérer l'adoption des lois. On est loin du grand soir. Même la promesse de 2012 d'instaurer une dose de proportionnelle a disparu. Alors le changement démocratique, c'est maintenant. Et pour en débattre de cette question, nous sommes, comme chaque vendredi, je le disais, avec le club des idées du grain, en compagnie ce soir de Philippe Manière. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet de conseil en stratégie Footprint Consultant. À vos côtés, Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir Mélanie.
Vous êtes chroniqueur à France Culture, le tour du monde d'hésiter, votre chronique du lundi au vendredi à 11h53 pour être précis. À vos côtés également, Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et enseignante en théologie politique à Sciences Po Paris. Et enfin, quatrième membre du club ce soir, Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de La Suite dans les idées, le samedi à 13h30 sur France Culture et professeur associé à l'EHESS.
La question était, est-ce que vous considérez que la démocratie est le meilleur des systèmes ou est-ce qu'un autre pourrait s'y substituer? Et on avait 30% de Français, ce qui est considérable, qui disaient un autre système peut s'y substituer. Mais peut-être que le chiffre qui est le plus frappant, c'est cette idée qu'il y a un attachement à la démocratie très fort, 91%, et c'est peut-être l'élément le plus inquiétant, 72% des Français qui disent la démocratie est en danger.
On propose d'auditionner, de faire auditionner par le Parlement, avec un avis rendu public, tous les grands hauts fonctionnaires qui sont désignés par le président de la République. C'est une procédure qui est extrêmement démocratique et qui limite le pouvoir du président. On limite aussi l'utilisation de l'article 16. On propose d'inclure le temps de parole du président de la République dans les médias.
Le fil rouge qui a traversé notre réflexion et lui donne, je l'espère, sa cohérence, c'est la volonté de renforcer et parfois même de rétablir la relation de confiance entre les citoyens et les responsables publics. Les citoyens sont au cœur de nos propositions.
Moi, je dis, le régime de la monarchie présidentielle, des mandats à vie, etc., je propose qu'on l'arrête. Je dis comment? On convoque une assemblée constituante, le peuple français qui a besoin de se refonder, qui a besoin de se rebrasser, décrit ses droits et devoirs, et quand cette constituante a terminé son travail, c'est-à-dire au bout d'un an ou deux, je prends les clés de l'Élysée, je les jette à la Seine et je rentre chez moi.
Nos institutions sont solides et adaptées aux circonstances. La Ve République donne au chef de l'État les moyens d'agir quand l'essentiel est en jeu.
Alors vous les aurez peut-être reconnus, on a entendu en premier Gilles Finkelstein qui présentait la semaine dernière les résultats d'une enquête sur la démocratie. Puis il y avait le juriste Dominique Chagnolot, membre du comité Balladur en 2007, Lionel Jospin en 2012, Jean-Luc Mélenchon qui propose de jeter les clés de l'Élysée à la Seine en février dernier. Et puis François Hollande, donc hier soir, à ce fameux colloque Refaire la démocratie, qui était en lien donc avec le rapport remis il y a un an, rapport Michel Vinocq, Claude Bartolone, un rapport qui dénonçait notamment l'hyper-présidentialisation de la 5e République, un président chef de tout mais responsable de rien. Est-ce qu'il faut s'étonner, Sylvain Bourmeau, que François Hollande n'ait pas repris à son compte hier soir cette critique de l'hyper-présidentialisation?
S'étonner certainement pas, François Hollande
ça s'est déjà vu, n'est pas l'un de ceux qui considèrent que le chantier institutionnel est une priorité. On l'a rarement entendu parler de ces choses. Il est un pur produit de cette Ve République qu'il a défendu une nouvelle fois hier. Et c'est assez inquiétant, à vrai dire, parce que je crois qu'on a des institutions qui ne sont pas du tout adaptées à la situation que nous traversons, au monde de 2016, mais elles n'étaient pas davantage adaptées probablement à la fin du XXe siècle. On a des institutions qui, plus que d'autres, plus que les régimes d'autres pays, sont sensibles, je dirais, à des évolutions qui n'ont rien à voir avec les règles institutionnelles, mais qui néanmoins transforment la manière dont on fait de la politique. La pipolisation, le rôle important de la télévision et aujourd'hui de l'Internet qui vient bouleverser l'espace public. Les institutions de la Ve République ont tendance à amplifier des dérives que l'on voit absolument partout ailleurs. Mais elles prennent, dans notre pays, des tours particulièrement inquiétants. Il y a d'autres régimes, et en particulier des régimes parlementaires, qui parviennent davantage à contenir ce type de dérive. Donc il est plus que temps qu'on se mette à réfléchir à la manière dont nos institutions pourraient nous protéger, en quelque sorte, contre ces dérives qui font la part belle au populisme, à la démagogie de plus en plus. Et cette élection directe du président de la République, parce que pour moi, c'est bien là le problème numéro un des institutions de la Ve République, nous met dans une situation extrêmement difficile.
Brice Couturier, est-ce que vous partagez l'inquiétude qui est exprimée par Sylvain Bourmont quant à l'inadaptation de nos institutions au monde d'aujourd'hui et aussi à l'aveuglement donc de François Hollande, mais d'autres avant lui, quant à cette inadaptation, ce besoin de changement?
Moi, je crois surtout que cette constitution, ces institutions sont inadaptées au paysage politique français tel qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les institutions ont été inventées par le général de Gaulle afin de donner au président de la République une légitimité supérieure à celle du Parlement. Le Parlement est le représentant de la classe politique dans sa diversité. Le président incarne la nation, incarne la souveraineté nationale. C'était un système qui était viable aussi longtemps que le système politique était bipolaire. Vous aviez deux, de chaque côté, à droite et à gauche, il y a deux partis de gouvernement qui avaient l'habitude de coaliser ensemble. Aujourd'hui, on n'est pas dans un système bipolaire, on est dans un système au moins tripolaire parce que le Front National est une force nouvelle qui fait environ 25% de l'électorat et je dirais même qu'on est dans un système quadripolaire parce qu'en réalité, vous avez dorénavant une gauche qui n'est pas une gauche de gouvernement mais qui est, comme François Hollande le dit fort justement dans une interview au débat qui vient de sortir, une gauche d'empêchement qui est une gauche radicale qui ne veut pas le pouvoir mais qui veut empêcher de l'exercer, ce pouvoir, qui veut empêcher la gauche en particulier d'exercer ce pouvoir. C'est la gauche radicale, c'est la gauche alter, c'est la gauche qui est dans la rue. Et du coup, le président de la République, comme Hollande le dit encore une fois fort justement dans cette interview que je citais, le président de la République ne représente plus, c'est Hollande qui le dit, hein, que 25 à 30% du corps électoral, soit, je le reprends aussi, une assise étroite dans le pays. Et en réalité, moi, ce que je conteste surtout dans la situation actuelle, dans les institutions actuelles et leur inadaptation par rapport à la donne politique, c'est plutôt, moi, tant l'absence de démocratie que l'incapacité à gouverner le pays et à le réformer alors qu'il en a profondément besoin et que les Français le savent. Parce qu'en fait, vous avez vu par exemple la loi El Khomri, le président de la République et le Parlement n'ont plus la légitimité nécessaire pour faire passer les réformes qui sont absolument indispensables parce qu'ils n'ont pas l'assise populaire, la légitimité suffisante pour faire passer les réformes dont ils ont l'intuition. Parce que vous avez ces deux facteurs de blocage. Donc effectivement, nous sommes dans une situation où le pays est en train de devenir ingouvernable parce que simplement les institutions ne sont pas adaptées à la donne politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, en particulier l'arrivée du Front National et de cette gauche d'empêchement.
De quand vous dateriez, Brice Couturier, à peu près le moment où les institutions sont devenues inadaptées au paysage politique, au moment où il s'est éclaté?
Dès que le Front National a dépassé les 12-15%, on était dans une situation nouvelle. On n'était plus dans le système bipolaire, on était dans une espèce de triangulaire où vous avez une force politique qui est une force de pure opposition et non pas de proposition qui bouleverse le jeu politique et qui l'empêche de fonctionner normalement.
Anastasia Colosimo, sur cette question, davantage un problème qui viendrait de l'éclatement du système politique, la multiplication des partis comme l'a décrit Brice Couturier ou des institutions elles-mêmes, ce qu'on disait tout à l'heure, un régime qui a du mal à choisir entre présidentialisation, parlementarisme.
Il me semble déjà que... Bon, je pense pas que cette, la crise qui est la nôtre soit une crise d'institution. Je pense que c'est une crise politique qui est beaucoup plus profonde que ça. Je pense aussi que la Ve République, comme l'a rappelé Brice Couturier, est un régime qui a été inventé par le général de Gaulle, mais qui au début, en fait, était un régime parlementaire, qui ensuite a évolué en régime présidentiel. Mais ce que ça prouve historiquement, c'est que c'est en fait un régime assez souple et que beaucoup de modifications peuvent être apportées sans vraiment toucher les institutions. Et moi, je reste convaincue que tout changement de la Constitution serait vers le pire plutôt que vers le meilleur, parce que cette Constitution est quand même une Constitution qui est, sur le papier en tout cas, très équilibrée. Ensuite, évidemment, il faut essayer de comprendre tous les ajustements qu'on peut faire, et on peut en faire. D'ailleurs, on voit bien que la question de la 6e République monopolise finalement assez peu de personnes, et qu'on beaucoup en revanche, réfléchissent à ce qu'on pourrait changer pour effectivement mieux adapter les institutions aux évolutions de notre temps. Ensuite, on met tout le temps en avance le fait qu'il faudrait passer à la proportionnelle, donner plus de pouvoir au Parlement, etc. Les exemples qu'on a en Europe, ils sont pas formidables. Le régime parlementaire qu'on a en Espagne est un régime qui, depuis un an, n'a pas de gouvernement. Et à un moment, justement, où il s'agirait de décider, justement, à un moment où il faut réformer, où il faut, j'aimerais même dire, tout casser et tout reconstruire, on a plus que jamais besoin de quelqu'un qui décide. Et la décision politique, c'est celle d'un homme, en fait. Donc, ce régime-là de la Ve République ne me paraît pas absurde, même si, évidemment, ensuite, il faut réfléchir à toutes les petites choses qu'il faut changer pour l'adapter.
Donc, tout casser et tout reconstruire, mais surtout pas l'architecture de la Ve.
Non, pas l'architecture de la Ve. Je pense, encore une fois, que l'immense avantage de l'architecture de la Ve, c'est qu'encore une fois, c'est un régime qui est assez souple, en réalité.
Et pour terminer le tour de table, votre diagnostic à vous, Philippe Manière, est-ce que vous partagez les inquiétudes et le constat d'une crise démocratique? Et si oui, ou pas, d'une crise institutionnelle?
Sur ce sujet, moi, il y a une expression qui me vient en tête, c'est « un train peut en cacher un autre ». C'est-à-dire qu'on a un phénomène qui est planétaire, en tout cas qui touche tout l'Occident, et puis il y a un phénomène strictement français. Alors le phénomène qui touche tout l'Occident, c'est une sorte de décrédibilisation des représentants du peuple, une sorte de crise de la démocratie représentative. Ce qui n'est pas tout à fait rien quand même, parce que la démocratie représentative, c'était considéré comme un acquis, c'était quelque chose dont on pensait que on aurait du mal à le dépasser. Et aujourd'hui, il y a une mise en cause permanente. D'ailleurs, c'est amusant, dans les propositions qui sont faites pour modifier les institutions, vous avez toutes sortes de choses qui ressortissent, à un plus grand usage du référendum, à des pétitions, à la capacité pour le peuple de saisir directement le Parlement, en quelque sorte. Ce que je ne crois pas de très bonne pratique personnellement, c'est une autre question. En tout cas, on voit bien qu'il y a une espèce de mise en cause par le peuple, aux États-Unis, pratiquement partout. Je dirais qu'il y a l'Allemagne et le Royaume-Uni qui échappent à ça, et encore, parce que UKIP et AFD, ça ressemble quand même de plus en plus au mouvement populiste ce qu'on voit dans d'autres pays. Donc à l'arrivée, vous avez un phénomène international qui est très inquiétant, parce que ça, je ne sais vraiment pas comment on peut le traiter. Il y a une crise de la démocratie représentative. Et puis, il y a un problème français spécifique qui date non pas de 58, parce que je suis assez d'accord sur les diagnostics qui ont été posés par mes prédécesseurs sur la qualité des institutions en 58, mais qui date d'abord de 62, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel direct bouleverse fondamentalement les institutions. Alors ça va dans un sens, ça donne plus de légitimité évidemment au président. Et puis il y a quelque chose qui va dans un autre sens, si on veut, qui va dans les deux sens, c'est assez compliqué, c'est le quinquennat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé au quinquennat, il y a un alignement des échéances électorales pour le président et pour le Parlement, si bien que le Parlement n'a plus d'onction élective autonome, puisque pour faire simple, et pardon d'être grossier, les élections des parlementaires, elles ont lieu au cul de la présidentielle, et donc vous avez le président qui a ses légitimités, puis derrière, vous avez presque automatiquement des gens qui doivent leur élection à l'élection du président. Donc on n'a plus cette espèce d'équilibre qu'on pouvait imaginer, si bien qu'apparaissent toutes les obscénités de la Constitution de 58, l'exécutif bicéphale, qui est devenu très particulier, très bancal. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut en faire une lecture à la Sarkozy? C'est-à-dire, j'ai un collaborateur qui est à Matignon. C'est pas plaisant pour celui qui est à Matignon, mais c'est pas insensé comme lecture. Est-ce qu'il faut au contraire se dire que on a un partage des pouvoirs avec une sorte de partage des tâches? Il y en a un qui fait de l'international et puis l'autre qui s'occupe des problèmes domestiques et qui se cogne le Parlement, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. On a des députés qui sont là pour aussi longtemps que l'exécutif. L'exécutif a beaucoup de mal à imaginer d'exercer d'appuyer sur le bouton de la force nucléaire, hein, c'est-à-dire la dissolution, compte tenu de ce nouveau dispositif. Donc on est dans une espèce de dérive des institutions françaises qui accusent les défauts qu'elles avaient dès le départ, Et puis tout ça s'inscrit dans un cadre international, encore une fois, qui est extrêmement dégradé pour la démocratie représentative. Donc on voit bien que c'est un problème d'une immense complexité qu'on ne peut pas régler strictement en France. Simplement, je voudrais finir là-dessus. C'est pas parce qu'il y a un problème de la démocratie représentative internationale très inquiétant qu'il ne faut pas s'occuper par ailleurs quand même des institutions françaises, lesquelles sont devenues franchement pathologiques. Et cette pathologie, d'ailleurs, serait également fâcheuse, même s'il n'y avait pas le cadre dévasté sur le plan international que je viens d'évoquer.
Alors comment on sort justement de cette ambiguïté très spécifiquement française, un régime qu'on qualifie parfois de semi-présidentiel, pour dire qu'il n'est pas totalement présidentiel, pas totalement parlementaire, et en même temps, est-ce qu'on peut pas se demander s'il n'y a pas un confort quelque part dans cette ambiguïté et qui explique qu'on n'arrive pas à en sortir? Parce que le rapport Vinocq-Bartolone est très clair, il dit « nous avons écarté » et le choix de passer dans un régime présidentiel fort, et le choix de faire le pas vers du parlementarisme, nous avons choisi plutôt d'apporter des améliorations ça et là. Alors comment on sort de cette ambiguïté, Sylvain Bourmeau?
Mais d'abord, en essayant de poser les bons diagnostics, là, on progresse. Régime semi-présidentiel, c'est une expression extrêmement compliquée, parce que c'est un concept qui a été proposé par Maurice Duverger. En fait, d'une certaine façon, on ferait mieux de parler de régime hyper-présidentiel, s'agissant de la France, puisque régime semi-présidentiel, je veux le dire par là qu'il existe deux circuits de légitimité. Philippe Manière vient de le dire, il y a deux élections nationales, l'une avec quelqu'un à qui on donne une légitimité très forte parce qu'il n'y a qu'une circonscription sur l'ensemble du territoire, et puis l'autre qui est l'élection législative où il y a 577 aujourd'hui circonscriptions qui représentent la nation une fois mise ensemble. Donc on a en fait une situation qui est différente des États-Unis puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs et d'équilibre des forces entre le président et le Congrès. Et donc, on a en fait un régime de fait où l'exécutif est extraordinairement puissant. En fait, ça ne date pas de la Ve République. Il est paru l'année dernière un livre très important, un livre d'un historien qui s'appelle Nicolas Rousselier, et qui a montré comment, au fond, l'exécutif a véritablement fait un coup d'État sur le législatif en France et comment ça s'est passé à la faveur des guerres en particulier. La Première Guerre mondiale et puis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un très long processus qui s'étale sur l'ensemble du XXe siècle et dont on peut lire au fond la Ve République comme le parachèvement en quelque sorte. Alors même qu'il montre comment, y compris d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, un régime extraordinairement parlementaire arrive à prendre des décisions très rapidement dans un souci de démocratie et une efficacité politique incroyable, ou arrive à prendre une loi comme la loi de 1905 sur la séparation de l'État et des Églises, qui en fait est le résultat d'un débat parlementaire admirable et qui n'en est pas moins efficace. Et donc il plaide pour un retour, puisque vous parliez de la question des solutions, à du parlementarisme. Moi je rejoins complètement cette analyse. Je pense, en réaction à ce rapport Vedel de 1997, j'avais à l'époque co-signé avec mon vieux camarade que connaît bien aussi Philippe Manière, Bastien François, professeur de sciences politiques, un papier dans Le Monde pour dire qu'il faut supprimer l'élection au suffrage universel direct du président de la République. C'est la seule solution. Le problème, c'est qu'on a une population française qui ne veut pas entendre parler de cette solution. Alors comment on fait? Comment on fait? Ben, on a réfléchi quelques années plus tard, en 2002, j'ai fait partie d'une groupe de 20 personnes qui ont créé la Convention pour la 6ème République. Et on a essayé de trouver des solutions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce petit jeu de mécano, qui est assez intéressant intellectuellement, qui est nécessaire sans doute, me paraît très insuffisant. C'est-à-dire que la véritable crise, et en ce sens-là, Hollande a raison d'insister sur le cumul des mandats dans le temps, par exemple, c'est la crise de la professionnalisation politique. On a aujourd'hui, alors, comme Premier ministre, quelqu'un qui n'a même pas fait d'études supérieures, qui a fait du militantisme politique dès la première année de la fac. On a comme responsable du Parti Socialiste quelqu'un qui a le même type de parcours. Et c'est pas la même chose que François Hollande ou tous les énarques qui ont d'abord fait des études, sérieusement, qui ont travaillé, et puis qui sont devenus des responsables politiques après. On est passé dans le cran d'après. Et ça, je trouve que c'est très, très grave, parce qu'on a un personnel politique qui n'est que politique.
Alors Sylvain, bon, on va revenir sur cette question de la professionnalisation qui est un problème soulevé de la classe politique. Sur la question de l'élection présidentielle, est-ce qu'il n'y a pas un risque assez fort à prendre de supprimer cette élection présidentielle quand on sait aujourd'hui que c'est le rendez-vous, pour pas dire le rituel démocratique, qui est quand même le plus suivi, le plus attendu par les Français? Anastasia Colosimo.
Je pense que la raison pour laquelle les Français ne veulent pas renoncer à l'élection du président au suffrage universel, c'est que Ve République et cette élection, surtout du président au suffrage universel, qui effectivement est une espèce de monarchie...
Suffrage universel direct, hein, pardon.
Oui, bien sûr, au suffrage universel direct.
C'est, parce qu'un direct, ça ne poserait pas tellement de problèmes.
Oui, bien sûr, mais je pense que c'est aussi une réconciliation de deux Frances qui sont fracturées au moment de la Révolution française, et je pense que ça correspond aussi à un certain inconscient politique qui existe encore aujourd'hui dans l'esprit des Français, même si tout ça paraît totalement loin, dépassé, etc. Mais je pense que si ça fonctionne, et si en fait les gens sont pas trop prêts à changer ça, cette élection au suffrage universel direct, c'est aussi parce que c'est un inconscient de réconciliation entre deux Frances qui, au moment de la Révolution française, se sont vraiment entre-déchirées.
Philippe Manière, sur la question de l'élection au suffrage universel direct.
On voit bien que c'est le point nodal, c'est-à-dire que cette élection au suffrage universel direct, elle est vraiment notre problème. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur 1962, qui est le point de basculement d'institutions qui, avant, à mon avis, étaient quand même assez intelligentes et qui, à partir de 62, deviennent potentiellement pathologiques et deviennent, avec le quinquennat, totalement pathologiques. Alors, la difficulté, elle est purement triviale, c'est-à-dire que pour un électeur français moyen, pour chacun d'entre nous, l'élection, c'est un droit. Enfin, le désigner le président de la République, c'est une sorte de droit acquis. Enfin, l'idée qu'on vous annonce qu'à partir de demain, vous n'allez plus exercer ce droit, on comprend que ça puisse être frustrant, traumatisant et que ça fasse l'objet d'une manière quasi générale d'un rejet. Enfin, c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un, tu seras bien mieux une fois que je t'aurai enlevé ton pouvoir.
Voir que ça accélère le désintérêt et le désinvestissement des Français vis-à-vis de la politique.
Surtout, enfin, l'exposé des motifs, il est vraiment, à mon avis, facile à faire intellectuellement, mais il est complexe, c'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer facilement aux gens que ce sera bien mieux une fois qu'ils auront perdu ce droit. Bon, alors, le deuxième point, c'est un peu ce que disaient Sylvain et Anastasia. Moi, on pense à Tocqueville, c'est-à-dire l'ancien régime et la Révolution, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de permanence des déterminismes français qui traverse la Révolution, et on voit une espèce de propension monarchiste française, si bien que dans le fond, dans l'inconscient des Français, je crois qu'il y a une espèce de confort, pas complètement conscient naturellement, à l'idée qu'on ait un roi, parce que c'est quand même bien d'avoir un roi, mais qu'on l'élit. Et donc, en fait, il y a une espèce de motion de synthèse entre deux désirs qu'on a, celui d'avoir un roi...
Qui a
du pouvoir, évidemment.
Parce que c'est pas comme la reine.
Non, absolument, qui a du pouvoir. C'est pas un roi qui inaugure les chrysanthèmes, c'est un roi. Mais en plus, on le désigne, donc c'est super, quoi. Il y a un roi qui est puissant et c'est le nôtre. Donc, on voit bien que cette appréhension, aussi courte soit-elle, quand on creuse un peu... Elle est confortable, elle n'est que l'expression effectivement de 250 ans d'histoire et surtout de la rémanence, de la permanence de figures politiques, de représentations collectives qui sont celles de la France héritées du catholicisme, du monarchisme, et je veux dire retrempées au jacobinisme puis au marxisme dans le fond. Hein. Donc tout ça est malheureusement assez cohérent, et quand on explique aux gens que ça marche pas du tout, il va falloir tout casser, oui d'accord, mais ça correspond tellement bien à ce dont on a inconsciemment envie que c'est pas gagné.
Brice Couturier, quelle est votre interprétation de l'inconscient politique français, si tant est qu'il existe ?
Moi, je ne partage pas cette méfiance des libéraux que vient d'exprimer Philippe Manière, dont je me souviens très très bien qu'elle se donnait libre cours en 1962, parce que j'ai cette mémoire politique, envers l'élection du président de la République au suffrage universel. Les libéraux sont toujours méfiés...
Direct. Parce qu'il était déjà élu au suffrage universel avant, mais là, c'est il n'y avait pas de légitimité concurrente.
Voilà. Moi, je ne suis pas hostile du tout à l'égard de cette procédure. Elle peut être qualifiée de bonapartiste, mais en attendant, les Français y sont attachés. Je vous ferai remarquer que la Constitution américaine, qui existe depuis plus de deux siècles, est fondée sur exactement le même principe, l'élection au suffrage universel direct et du président et des membres du Congrès. Non, à mon avis, il y a une solution pour sortir de l'impasse où nous sommes, et elle a été indiquée par Nicolas Fourier, auteur d'un livre qui s'appelle « L'impossible Sixième République », dans un article récent. Voilà ce que propose Nicolas Fourier très simplement. Il suffirait que le président de la République, avant la fin de son mandat, dissolve l'Assemblée nationale. Ainsi, on n'aurait pas ce que l'on vient de dire tout à l'heure, ce problème d'alignement des échéances électorales, qui fait qu'effectivement, l'élection des députés devient un supplément par rapport à l'élection du président de la République. Au contraire, le président serait élu après les députés, et ça change tout. Parce que d'un seul coup, le Premier ministre serait désigné par la majorité parlementaire sur la base d'accords de gouvernement assez précis, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, et sur la base d'engagement clair. Et le président, vous me direz à quoi il servirait, il serait cantonné à ce qui était au départ sa fonction principale, qui est la gestion des affaires étrangères et celle de la défense nationale. Par ailleurs, il retrouverait ce qui est réellement son rôle dans la Constitution tant que quand on prend le texte tel qu'il a été écrit par les constituants au départ, à savoir qu'il ne pourrait plus continuer comme il le fait aujourd'hui et depuis si longtemps à choisir le Premier ministre en fonction de son bon plaisir et de le supprimer quand il ne lui plaît plus, mais au contraire, il serait là pour faire fonctionner les institutions, à savoir que quand il y aurait manifestement une crise parlementaire, il dissoudrait l'Assemblée nationale afin de rendre la parole au peuple s'il s'avérait impossible au Parlement de dégager des majorités de gouvernement stables. Donc je pense qu'on retrouverait un président de la République un peu plus dans ses fonctions telles qu'elles sont dans l'esprit des institutions, que le Parlement retrouverait toute sa place si seulement François Hollande avait la bonne idée de dissoudre tout de suite.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Et c'est Mélanie Chalandon au micro exceptionnellement ce soir, en remplacement d'Hervé Gardette, on s'est trompé, 2, mais nous sommes toujours en compagnie du club du grain à moudre avec Anastasia Colosimo, Philippe Manière, Sylvain Bourmeau et Brice Couturier. Le changement démocratique, c'est maintenant, c'est la question que nous posons. Parmi les mesures proposées par le rapport Claude Bartolone-Michel Vinocq, il y avait l'idée d'associer davantage les citoyens à l'élaboration de la loi. François Hollande l'a repris aussi. Est-ce que ça vous semble être une piste intéressante pour répondre et à la crise de représentativité, à la crise démocratique, sur le modèle un peu de ce qu'on a vu pour la loi sur le numérique Axel Le Maire, qui avait fait l'objet d'une grande consultation sur Internet avant et qui avait peut-être permis ensuite d'avoir un processus d'adoption de la loi plus rapide, plus efficace. Anastasia Colosimo.
Franchement, je trouve ça catastrophique.
C'est clair.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a quand même une... Alors déjà, il y a un problème en France, c'est qu'on fait des lois tous les jours. Que ces lois-là, elles sont écrites très souvent n'importe comment, qu'elles sont pas relues et qu'il y en a tellement qu'on n'a même pas le temps de suivre. C'est-à-dire qu'on est face parfois à des spécialistes d'une question particulière en droit, eux-mêmes n'ont pas le temps de suivre. La facilité avec laquelle on adopte des lois dans ce pays, c'est quand même fascinant. On sait d'ailleurs que le meilleur symptôme de la chute dans l'Empire romain, c'était exactement la prolifération des lois et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et alors ensuite, on nous dit, on va continuer du coup à faire des lois, il faut qu'on les fasse plus vite parce que c'est ça aussi que dit le rapport, c'est ça quand même, Hollande nous dit, on va faire des lois et encore plus vite. Alors que déjà, on les fait beaucoup trop vite. On parlait tout à l'heure de la Troisième République.
Vous trouvez qu'on les fait trop vite, les lois travail, par exemple?
On en fait trop, probablement.
Mais on en fait trop.
Ça veut dire qu'on les fait trop vite si on en fait trop. Enfin,
mais on en fait trop et surtout, les discussions ne sont pas du tout apaisées parce qu'on est justement tout le temps en train d'essayer de forcer, en train d'essayer d'aller plus vite, en train de se dire il faut adopter maintenant. Cette loi-là, elle aurait pu être faite au début du quinquennat, ça n'a pas été le cas. Et on parlait tout à l'heure de la Troisième République, on parlait des grandes lois qui sont encore aujourd'hui un peu la structure de nos libertés fondamentales. La loi sur la liberté d'association, la loi sur la liberté de la presse, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, c'est des lois qui ont été discutées tellement longtemps au Parlement et qui ont fait l'objet de discussions qui ont été consignées et qui sont merveilleuses et magnifiques, justement parce qu'on prenait le temps et on ne pensait pas que la loi était là pour régler chacun des problèmes un par un. Et ensuite, ce que nous propose Axel Le Maire, c'est que tous les citoyens participent à la loi. Mais ça, c'est exactement, vous voyez, l'idée qui avait à Nuit debout. Donc tout le monde, tout d'un coup, devient législateur. Alors aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui ont participé. Mais quand il y a 60 millions de personnes qui vont participer, à quoi on s'attend exactement? Et surtout, quelle idée on donne de ce qu'est la politique quand on dit n'importe qui peut participer n'importe comment? Ça n'est pas ça, quand même. Ce qu'on a envie de dire, je pense.
Sylvain Bourmeau, puis Philippe Manière.
J'ai trouvé symptomatique qu'au fond, François Hollande ne parle, s'agissant du Parlement, que du processus législatif. Un Parlement, ça ne sert pas qu'à voter des lois et à les écrire. Un Parlement, ça sert aussi à contrôler le pouvoir exécutif. Et l'un des problèmes que l'on a les plus graves sous la Ve République, c'est l'absence de ce contrôle. Pourquoi moi je suis admiratif de ce grand régime parlementaire qu'est le régime britannique? Tout simplement parce que deux fois par semaine, c'est l'une des raisons, deux fois par semaine, le Premier ministre est face au chef de l'opposition. Face à face, à quelques mètres l'un de l'autre, il se pose des questions. C'est filmé par les caméras de la télévision, c'est deux fois par semaine aux journaux télévisés, c'est partout dans les médias, il y a une véritable vie démocratique.
Vous voulez dire qu'on devrait davantage médiatiser les questions au gouvernement?
Ça dépend comment on médiatise. Alors, le problème des questions au gouvernement, c'est que par rapport à Question Time, c'est de la rigolade. Enfin, c'est rien. Il suffit de voir une séance du Parlement britannique pour comprendre ce que c'est que ce mot qui n'a pas d'équivalent dans la langue française, accountability. On est dans un pays où, comme disait Karl Kraus à propos de l'Autriche dans les années 30, on ne tire pas de conséquences. On sait les choses. Les faits sont imprimés dans les journaux. Et puis, il ne se passe rien. Un exemple, on a un ancien président de la République dont on sait qu'il a dépensé deux fois plus d'argent pour sa campagne électorale la dernière fois qu'autorisé. eh bien, ça ne l'empêche pas d'être à nouveau candidat. On ne tire pas la conséquence. C'est-à-dire que les faits sont publiés dans les journaux, mais les éditorialistes ne vont pas jusqu'à demander à ce que cette personne ne soit pas candidat, ce qu'il le ferait dans n'importe quelle autre démocratie occidentale.
Vous vouliez juste réagir.
Oui, j'allais apporter de l'eau à votre moulin, justement. Je trouve qu'un exemple éloquent, c'est ce qui se passe avec les lois de finances. Les lois de finances, normalement, le Parlement est censé contrôler, à la fin de l'exercice, tout ce qui... Donc, faire vraiment un rapport très précis. Et la réalité, c'est que même si cela existe dans les textes, le Parlement, ça l'ennuie de le faire. Et donc là, on a un vrai problème qui est que même si on décide de changer d'institution, même si on peut essayer d'encourager, voyez, le Parlement ou de désencourager le président, le problème, c'est qu'on a des choses qui sont tellement solidement installées aussi dans les consciences que les parlementaires, on leur donne le pouvoir de contrôler et ils se disent, bon, bah, en fait, ça ne nous intéresse pas beaucoup.
C'est... Philippe Manière.
Sur ce point, il faut quand même revenir sur les parlementaires. Alors, une circonstance atténuante, d'abord, en France, ils ont extrêmement peu de moyens. Tous les moyens sont dans l'exécutif. Je prends un exemple. Le plus gros budget civil, c'est l'éducation nationale. Vous avez rue de Grenelle, quelque chose comme 50 ou 100 spécialistes du budget qui travaillent là-dessus toute l'année. Et vous avez 3 ou 4 députés spécialistes qui ont chacun un demi-attaché parlementaire qui peut s'occuper du sujet pendant une semaine.
Ils et devinez quoi? Plus à Westminster.
Si, enfin, aux États-Unis, oui. Alors, Westminster, c'est une autre question. Mais aux États-Unis, vous avez des staffers qui sont extrêmement compétents, qui sont nombreux. Et donc, il n'y a pas ce déséquilibre. Et il ne faut pas se raconter l'histoire. L'exécutif tient délibérément le Parlement en situation de faiblesse sur ces sujets-là. Non seulement parce qu'il ne lui permet pas d'avoir l'expertise, mais en plus parce qu'il fait tout pour qu'éventuellement, s'il a l'expertise, il ne puisse pas s'en servir. Typiquement, les textes sont transmis au Parlement de plus en plus tard, à la toute dernière minute maintenant, y compris les textes très compliqués, y compris sur des sujets très importants. Donc on a des députés qui sont en état de faiblesse parce que, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la préférence française pour la monarchie, en quelque sorte. Hein. Tout ça cadre un peu. Bon, mais il y a aussi autre chose quand même. Et là, pour le coup, ce n'est pas en défense de parlementaires, des parlementaires que je veux parler, c'est que la qualité du personnel politique s'est considérablement dégradée. Quand vous regardez les débats admirables dont vous parlez sur la loi de 1901, sur la loi de 1905, sur la loi de 1903. On avait des trucs extraordinaires. Moi, je me rappelle, j'ai refeuilleté il n'y a pas longtemps, il y a des tas de recueils, celui de Mehdi Ouraoui sur les grands discours de la gauche. Il n'y a pas longtemps, j'ai relu aussi les discours de Churchill. Alors, vous me direz, mais c'est quand même extraordinairement raffiné intellectuellement. C'est courageux. Et en plus, c'est raffiné. Ce sont des gens qui réfléchissaient, qui avaient une grande indépendance d'esprit. Ils n'étaient pas complètement dans la main de leur parti. Aujourd'hui, malheureusement, et je suis désolé de le dire parce qu'il y a de notables exceptions, mais en si petit nombre que je ne peux que leur rendre hommage en passant, malheureusement, la plupart des parlementaires sont peu cultivés, peu travailleurs, à peu près incapables d'articuler des idées du niveau, pas particulièrement raffiné, de celles qu'on est en train d'échanger. On a un problème de niveau du personnel politique qui rend la qualité des échanges que vous évoquiez il y a une centaine d'années inconcevable aujourd'hui, juste inconcevable. Alors après, on a un autre problème, je l'évoque très rapidement, c'est qu'on est un peu le cul entre deux chaises sur le plan des institutions. C'est-à-dire, vous avez le régime qui s'appelle, comme chacun sait, par antiphrase ou presque, présidentiel, mais enfin, on sait ce que ça veut dire américain. Vous avez un président qui est très puissant, sauf qu'il est impuissant, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à obtenir l'autorisation du Congrès, bah, il a des pouvoirs à l'international et encore, mais pas grand-chose d'autre. Hein. Dans le fond, le président des États-Unis...
Il n'a pas le pouvoir de dissolution.
Il n'a pas le pouvoir de dissolution et il a devant lui un Congrès. Alors, au passage, on voit d'ailleurs que la dégradation là-bas est très forte aussi. Il n'y a plus le bon fonctionnement bien huilé du log rolling traditionnel américain, donc ça bloque également. Enfin, vous avez en tout cas ce dispositif qui est assez pur, puis vous avez en face le dispositif britannique qui est totalement pur, qui est un dispositif parlementaire. Alors, la reine d'Angleterre, on sait ce qu'elle fait, c'est rien. Et puis, par ailleurs, vous avez un exécutif qui est totalement l'émanation du Parlement. Donc là, les choses sont très claires. Nous, avec notre machin raffiné de semi je sais pas quoi, on a un truc qui marche pas. C'est d'ailleurs très souvent le cas en France. Hein, trop longue cette parenthèse, mais regardez le régime de santé, vous avez le totalement privé américain, ça se discute, c'est bien, c'est pas bien. Vous avez le totalement public à la britannique ou à la canadienne, si vous voulez, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, en tout cas, on sait où on est. En France, c'est entre les deux. Et c'est une grande classique française qui est souvent un facteur de paralysie majeur. Parce que changer quelque chose qui est complexe, parce qu'il a le cul entre deux chaises, c'est beaucoup plus difficile que de faire évoluer un objet qui est pur.
Alors, je reviens à cette question de départ qui a soulevé ces parenthèses, Philippe Manière, celle de la participation, d'une meilleure participation, d'une meilleure représentativité des citoyens dans l'élaboration de la loi. Vous avez parlé de parlementaires en France que vous jugez à la fois médiocres et puis à la fois faibles.
Est-ce que j'ai dit qu'il y avait de remarquables exceptions. Je ne veux pas me faire problème, mais il y a des gens très bien, mais ils sont minoritaires.
Est-ce que le fait d'ouvrir la participation à la société civile, à d'autres acteurs, est-ce que ça pourrait contribuer à affaiblir encore plus peut-être la légitimité des parlementaires ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait quand même être un outil pour remettre un petit peu de légitimité démocratique qui serait une alternative aussi au référendum ? Brice Couturier.
Écoutez-moi, je pense que ce processus, pour avoir travaillé dans une assemblée parlementaire pendant 5 ans, je sais que le processus législatif est un processus long et difficile. J'ai vu le travail en commission, j'ai vu les échanges avec le Conseil constitutionnel, par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, et j'ai vu à quel point c'est difficile d'accoucher d'une loi. Donc l'idée du jury citoyen et tout ça me laisse un peu sceptique. Non. Par contre, moi j'ai vu dans les différentes propositions qui émanent de ces différents rapports, une proposition qui me paraît extraordinairement importante et sensée. Parce qu'elle met le doigt sur un des vices majeurs de notre fonctionnement politique aujourd'hui, qui n'est pas démocratique et qui rend en particulier, je vais vous expliquer pourquoi, l'Union européenne extraordinairement impopulaire auprès de l'opinion publique. Quand le président de la République française et la chancelière allemande, les deux pilier fort de l'Union européenne, se retrouve au Conseil européen et décide d'orientations politiques et économiques qui seront déterminantes pour le fonctionnement de la vie politique française, allemande et des autres. La chancelière allemande rencontre immédiatement au Bundestag de la décision qui a été prise. Elle l'a fait voter, elle l'a fait approuver ou pas, et elle est également obligée d'en référer à la Cour constitutionnelle allemande. Le président français lui fait tout ce qu'il veut. Il ne rend compte à personne. Le Parlement n'est pas informé. La classe politique va subir une décision européenne qui sera prise en particulier par le président français sans que personne ne puisse contrôler la nature de cette décision. Étonnez-vous après que l'opinion française soit particulièrement anti-européenne alors que l'opinion allemande ne l'est pas.
Il nous reste quelques minutes. Je voulais vous demander si, à votre avis, la réforme des institutions peut se faire à la faveur d'une relative stabilité, ou est-ce qu'il faut attendre d'arriver en période de crise aiguë, comme ça a été le cas en 58. On a changé de constitution, peut-être parce qu'il y avait un contexte historique de crise, à la fois politique, internationale, etc. Ou est-ce qu'on peut envisager d'avoir une amélioration, un changement aujourd'hui, Sylvain Bourmeau ?
Ce serait préférable de ne pas attendre une crise. Et puis, des fois, il se passe des changements dont on ne prend pas toute la mesure. Je veux dire par là que la principale modification, finalement, des règles du jeu politique, même si elle n'est pas institutionnelle, c'est l'invention de des primaires. C'est en train de bouleverser. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de retrouver des équilibres et ce fameux quadri bipolaire dont parlait tout à l'heure Brice Couturier, avec deux parties à gauche et deux parties à droite, grosso modo, ce qui correspond à la loi du Verger. Et je voudrais en profiter pour dire que moi, je trouve que je suis bien content que Hollande n'ait pas poursuivi sur la voie de la représentation proportionnelle, parce que je ne crois pas que le problème ce soit de trouver le moyen de représenter le peuple qui existerait comme ça, comme avait l'air de le dire Brice Couturier, mais plutôt de se servir de la loi électorale pour former véritablement des majorités. De ce point de vue-là, je pense que le meilleur des modes de scrutin, c'est first past the post, un scrutin à un seul tour qui permet d'avoir une bipolarisation de la vie politique, et on en aurait réglé le problème du Front National du jour au lendemain.
Philippe Agnard ?
Rapidement, moi je suis pas d'accord sur la proportionnelle. Je pense que la proportionnelle, à condition qu'elle soit tempérée, moi je pense à la proportionnelle allemande avec le système Donche qui est quand même très intelligent. C'est-à-dire qu'il y a une partie de proportionnelle, mais ça n'empêche pas la probabilité élevée que le Parlement dégage une majorité. Mais un peu de proportionnelle ne ferait pas de mal dans le monde populiste que nous connaissons. Faut pas oublier que le populisme a un des principaux ressorts du populisme, c'est une forme de paranoïa. Et l'idée qu'une très grande partie des gens ne soient pas représentés, c'est une idée contre laquelle il faut absolument lutter. Et aujourd'hui, quand vous dites à des gens qui sont en très grand nombre que c'est normal qu'il n'ait pas ou très 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 peu de députés, je pense que ça alimente évidemment ces mouvements-là. Alors pour répondre plus précisément à votre question, j'observe moi historiquement qu'on a changé les institutions pratiquement qu'en période de crise. Pour des raisons diverses, mais l'une très contingente.
On est en période des crises.
Non, on ne l'est pas suffisamment pour que ça puisse se faire. Et pour une raison est très très contingente, c'est que ce sont des sujets qui n'intéressent pas les Français. Et la raison pour laquelle les politiques viennent pas sur ce terrain, c'est que c'est quand même assez complexe. Puis vous gagnez pas de voix, vous ne perdez pas de voix en disant je vais faire ceci ou cela dans cette matière. Il y a que des coups à prendre quand vous allez au Congrès. On peut même se planter au Congrès. On n'a jamais vu quelqu'un devenir populaire parce qu'il proposait une réforme des institutions. Donc comme il n'y a pas d'obligation, on ne réforme pas. Donc tant qu'il n'y aura pas d'obligation de réformer, on ne réformera pas les institutions.
La réforme des institutions, c'est pas porteur, Brice Couturier.
Juste une phrase, c'est ce que De Gaulle avait dit à Raymond Aron, la France ne fait de réformes qu'à l'occasion des révolutions.
Anastasia Colosimo, vous avez le mot de la fin.
Non, je pense que justement les gens s'intéressent pas beaucoup à cette crise d'institutions parce que la crise elle est beaucoup plus profonde en fait. Et évidemment on changera les institutions quand on pourra pas faire autrement, mais pour l'instant ça paraît pas justifié parce que je suis pas sûre que ça soit la première obsession des Français.
Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à la discussion, un débat à suivre. Bien évidemment, nous ne l'avons pas épuisé. Merci beaucoup à vous, Philippe Manière, Brice Couturier, Anastasia Colosimo, Sylvain Bourmont. Votre programme demain, à la suite dans les idées, à 13h30.
Je reçois une historienne américaine des mouvements de contestation noirs qui s'appelle Caroline Roland Diamond, qui vient d'écrire un livre absolument passionnant et qui fait écho aussi à la très belle exposition au musée du Quai Branly, The Color Line.
13h30 demain. La réécoute, le podcast, les commentaires, c'est sur franceculture.fr sur la page Du Grain à Moudre. Vous pouvez également nous suivre sur notre fil Twitter. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Cyril Baer, Fanny Richer, Céline Leclerc, Isulde Sicard. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. Prise de son, Alexandre Dang. Dans quelques instants, on retrouve Ping Pong avec une émission spéciale ce soir consacrée à Hergé. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres.